Bonsoir et bienvenue à Scal 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Swadman à la technique pour cette deuxième édition de la semaine. Bien sûr, c'est mardi, hein, c'est pas encore mercredi ni jeudi, c'est mardi. Voilà, quelle fraîcheur, quel froid qui nous balance un peu ce caprice. Alors, en première partie d'émission, je vais parler un peu de sport, bien sûr, du deuxième trophée Super Bowl de Los Angeles Rams et puis bon, du premier titre au tournoi ATP de Phoenix. Auger Yacine FAA à Rotterdam, son premier titre. Voilà, ce garçon, 21 ans, mais qu'est-ce qu'il faut? Puis, c'est les gens au courant du mois de l'histoire des Noirs en plus. Bon, il faut en profiter, quoi. Voilà. Et puis, en deuxième partie d'émission, là, je vais recevoir docteur Quentin, qui est cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il est vice-président de l'Association des cardiologues du Québec et porte-parole de la Fondation Cœur et AVC. Pourquoi? Parce que c'est le mois du cœur, c'est le mois, c'est ça, ce mois de février, voilà, on parle de ça, il est le porte-parole de cet événement, donc ça tombe bien, il sera là avec nous à partir de 17h30 pour parler de cet événement qui a lieu durant tout. Il y a tellement de malades cardiovasculaires dans le monde, au Canada et au Québec, donc ça concerne tout le monde, tout un chacun de nous, de près ou de loin. Alors, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On va en musique. On démarre cette fois-ci avec John Legend, If You're Out There.
If you hear this message, wherever you stand, I'm calling every woman, calling every man. We're the generation, we can't afford to wait. The future started yesterday, and we're already late. We've been looking for a song to sing. We search for a melody, search for someone to lead. We've been looking for the world to change. If you feel the same, then go on and say, if you're out there, sing along with me. Say it loud if you're out there. Tomorrow's starting now. No more broken promises, no more call to war. Unless it's love and peace that we're really fighting for. We can destroy hunger, conquer hate, put down the arms and raise your voice. We're joining hands today.
I was looking for a song to sing.
Search for a leader, but the leader was me.
We were looking for the world to change.
We can be heroes. Say it loud if you're out there.
If you hear this message, wherever you stand, calling every woman, calling every man. We're the generation that can't afford to wait. The future started yesterday, and we're already late.
John Legend. J'aime bien ce garçon. Voilà, if you're out there, yeah. The future started yesterday. Le futur a démarré hier. Moi, j'aime ça, ces petites paroles poétiques. Alors, avant de parler des deux victoires, la première victoire, ce serait la victoire des Rams de Los Angeles, qui ont remporté le deuxième Super Bowl, bien sûr. Et la victoire de Félix Aliassine, le Montréalais. Pas le Montréal, le Québécois. Il est de Québec, si je ne me trompe pas. Pas de Montréal. Faut pas raconter des histoires. Mais là, il vit à Monaco comme les autres joueurs de tennis. Là. Bon, c'est parce qu'ils s'entraînent tous ensemble. Hein, ne parlez pas d'impôts ici. Là. Voilà. Bon, Djokovic a fait une sortie à la BBC en disant que plutôt rater des titres que de me faire vacciner. Ah ouais, donc le numéro 1 mondial n'a pas caché qu'il préférait renoncer à Roland-Garros ou Wimbledon plutôt que de recevoir deux doses de vaccin anti-Covid. Il dit, je ne suis pas anti-vaccin. J'ai eu des doses de vaccin quand j'étais enfant, mais à mon âge, j'ai le droit de décider. Voilà. Bon, faut pas le numéro 1 mondial, hein, tout le monde le sait, mais est-ce que ça va le mettre, ça va le garder comme ça toujours à la tête du classement ATP? Ouais, ATP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'association de tennis professionnel. C'est en anglais, c'est WTA, quelque chose comme ça, World Tennis Association, WTP, voilà. WTA, je ne sais quoi. Voilà, donc cette déclaration à la BBC, British Broadcasting Corporation, à la chaîne de radio ou de télévision anglaise, il a en effet affirmé qu'il préfère renoncer à Roland-Garros et à Wimbledon plutôt que de se faire vacciner. Oui, c'est en effet le prix que je suis prêt à payer, il a ajouté là-dessus, c'est le prix qu'il est prêt à payer. Voilà, il est vainqueur de 20 titres, comme tout le monde le sait, comme Roger Federer, celui qui le dépasse, c'est l'Espagnol, Rafael Nadal, qui a eu son 21e trophée à l'Open d'Australie en début d'année. Donc le Seb préfère donc renoncer à ses titres plutôt que de recevoir ses doses. Je ne suis pas un anti-vaccin. Voilà, j'ai d'ailleurs eu des vaccins de ma jeunesse, mais comme tout le monde, mais... J'estime qu'arrivé à l'âge adulte, un être humain a le droit de choisir ce qu'on lui injecte dans le corps ou non. Ouais. Ok, c'est pour cette raison que je préfère renoncer à disputer certains tournois, là où les vaccins sont demandés. Et puis les décisions que je prendrai pour mon corps et pour mon bien-être sont plus importantes que n'importe quel titre. Il ajoute là-dessus. Et j'ai toujours essayé d'être en accord avec mon corps. Je vais continuer autant que possible et tant pis si cette attitude doit me coûter des titres. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi je n'ajoute plus rien là-dessus, c'est pour vous informer, c'est tout quoi. À chacun de faire son opinion, mais ce que j'ai pas compris, pourquoi est-ce qu'il s'est entêté à tout prix à jouer à l'Open Air d'Australie, au premier grand chelem de l'année? Pourquoi est-ce qu'il a menti, il a eu des documents truqués, tout ça, pourquoi il a voulu, s'il s'en foutait des titres? Pourquoi est-ce qu'il a essayé à tout prix d'aller jouer en Australie? Voilà, bon, mais ça, c'est sa décision, ça n'engage que lui. Peut-être qu'il va dire un jour, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester tout le temps numéro 1 mondial. Hein. Parce que quand tu ne joues plus, tu ne gagnes plus les matchs, ça te déclasse, ça c'est clair. Il faut qu'on soit clair là-dedans, il ne va pas rester à vie numéro 1 mondial. D'ailleurs, j'attends les prochains classements là, pour savoir quel poste il occupe actuellement. On verra bien. David nous le dira. Voilà, bon, peut-être que c'est une retraite qui se prépare en douce. Déjà, il est millionnaire. On va pas trop se prendre la tête avec ça. Avant de parler du premier titre de notre Félix Auger-Aliassime national, je vais parler de Rams de Los Angeles. Los Angeles Rams qui se sont offerts ce deuxième Super Bowl d'ailleurs, qui est le 56e Super Bowl. Ouais, voilà, si je me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? J'ai pas vu tout le match. Moi, j'aime toujours le spectacle à la mi-temps. C'est ça qui fait que je m'assois devant la télé pour regarder un peu quoi là. Donc, ouais, je me suis dit, il le mérite. Oh ouais. Mais l'autre équipe n'a pas baissé les bras. Hein. Les gars de Cincinnati n'ont pas baissé les bras. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais comme c'est une compétition, c'est une finale, il y a toujours une équipe qui doit perdre et l'autre qui doit gagner. Voilà. Donc on leur dit bravo, on leur souhaite bonne chance pour les prochains mois, pour les prochaines rencontres qui arrivent, pour qu'ils arrivent à se comporter comme des champions en titre. Pourquoi pas? Voilà. Le Super Bowl, c'est pas toutes les équipes qui arrivent à l'avoir deux fois. Il y a des gens qui n'ont jamais eu, il y a des équipes qui n'ont jamais eu. Alors, on ne peut pas demander plus. Je lui ai dit bravo, félicitations. Et la suite, on le saura plus tard. Bon, maintenant le tournoi d'Amsterdam. Non, de Rotterdam, en Hollande. Aux Pays-Bas, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pays-Bas, Hollande. C'est pas Amsterdam, c'est Rotterdam. C'est un très grand port d'ailleurs. Alors, enfin, il va dire. Il dit enfin. Oui, je n'aurai plus à entendre que je n'ai jamais gagné de tournoi. Félix Auger, alias, il dit, je n'aurai plus à entendre que je n'ai jamais gagné de tournoi parce qu'il a trop entendu ça. Ouais, ouais. C'est un grand soulagement. On parle souvent de la pression extérieure, mais pour moi aussi, c'est quelque chose que je voulais réaliser depuis longtemps. Voilà. Et moi, personnellement, quand je regarde ce garçon évoluer depuis, disons, 2021, début 2022, alors là, avec ses différents coachs qui sont autour de lui, là, dont l'oncle de Nadal, Tony Nadal. L'oncle Nadal, voilà, un de ses coachs. Donc tu te dis, voilà, Nadal a 35, 36 ans, si je ne me trompe pas maintenant, à un moment donné qu'il faut qu'il prenne sa retraite, il faut que Tony se trouve un autre boulot, un autre emploi, quoi, je veux dire, en gros. Alors il va chercher la pépite. Il est allé chercher la pépite pour le coacher, pour lui permettre d'avancer. Il va rester. Maintenant, je sais qu'il sera un très bon coach, comme tous les autres aussi, qui encadre. Roger, on dit bravo à Félix et à sa famille. D'ailleurs, je vais voir si je peux recevoir son père ici, Sam Aliassine, pour parler un peu de l'évolution de son fils. Il a son école de tennis, où le fils a commencé, là, à Québec. Ouais. Le centre de tennis Aliassine. C'est là-bas qu'il a commencé. Donc, ce serait très, 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 très intéressant pour nous de l'avoir ici et parler un peu du parcours de son fils parce que c'est lui qui le suit depuis tout enfant. Donc, on verra bien. Sam, bon, je pense bien que s'il n'est pas en déplacement avec son fils, hein, parce qu'il est toujours là aux différents matchs, tout ça. Donc, on dit bravo à Félix Auger Aliassime, qui en conférence de presse après le match d'ailleurs, il a commencé avec aplomb en brisant son adversaire dès le premier jeu. Hein, il a été fumant, efficace, et puis bon, tout au long de la manche, il nous a offert, je parle du public, je n'étais pas là-bas, moi j'ai vu ça après, en résumé du match, quoi, du tennis de très haute qualité. Il a fini par remporter la première manche au compte de 6-4 en gagnant 100% de ses points au premier service. Ça c'est important. Ouais, voilà. Ah, il était face au Tsitsipas, le grec. Ah, c'est un numéro aussi, celui-là. Il ne voulait pas se laisser faire. Mais Félix l'a laissé plier. Il allait faire plier. Hein? Ah, je me suis dit, ouais. Il est soulagé et fier. Il était devenu difficile de faire abstraction des 8 défaites consécutives en finale. Ouais, on se rappelle de cette dernière demi-finale de finale qu'il a eue, qui ne gagnait pas. Il n'allait pas de l'avant avec ça. Donc c'est un grand soulagement. J'ai vécu de très beaux moments jusqu'à présent dans ma carrière. Mais cette journée-là, c'était le dimanche-là, c'était la plus belle journée, voilà, de sa carrière, ça il le dit. Voilà, oui, chaque victoire lui procure un bon sentiment, mais celle-là lui enlève un poids important. Ouais, il n'a jamais gagné de titre. Bon ben ça a été fait maintenant, on ne peut plus lui reprocher ça. Voilà, donc remporter ce titre, ce premier titre était au sommet de sa liste de priorités en commençant la saison, c'est-à-dire depuis l'Australie, l'Open d'Australie. Donc, il est heureux d'avoir pu réaliser cet objectif dès son troisième tournoi de l'année. Félix connaît un début de saison fracassant, mais quand tu le vois en action, tu vois le résumé du match, de chaque match qu'il fait, tu te dis. Et souvent, il est mené 3-0, quelque chose comme ça, et puis il remonte la pente, il gagne le match, il va de l'avant en quart de finale, huitième, tu te dis, mais d'où vient cette force, au fait? Ouais, Il y a aussi, à 21 ans, il y a une maturité qui s'installe, il y a un mental qui s'est mis en place. Au début, c'était pas ça, on avait l'impression, moi personnellement, j'avais l'impression qu'il baissait trop vite les bras, il se décourageait trop vite, mais maintenant, le mental est là. C'est ça qu'il faut pour gagner. C'est un joueur contre l'autre, hein. C'est pas un sport d'équipe, là. Non. C'est Fulgence face à Nicolas. Ça se passe comme ça. Voilà, bon, c'est face à face, un contre l'autre. Donc, je suis très content pour lui. J'ai bien de savoir quelle place il va occuper maintenant dans le classement. Et puis, il dit, je n'ai plus de raison de sentir que je suis inférieur à qui que ce soit. Voilà. C'est ça. Mon but par rapport à mes objectifs et vers où je veux aller, tout en gardant du respect et de l'humilité face à mes compétiteurs. C'est ça. Mais il est très humble. Il y a une humilité en lui quand même. Il n'est pas. C'est parce qu'il a gagné Poudy. Il dit, ouais, non, je suis plus fort que les autres, je suis mieux que les autres. Non. Voilà. Alors, on lui dit merci. 21 ans, son premier titre, son premier trophée. On ne peut pas demander mieux que ça. Voilà, il a gagné face à Stefanos Tsitsipas en 1h17. 6-4, 6-2, sec. Ouais, c'est vite parti dans une finale qu'il a dominée du premier au dernier point. Hein, voilà. Début d'année remarquable. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je suis tellement content pour lui, ce garçon. Ouais. Les critiques vont finir. Ouais, il n'a jamais gagné de titre. Il n'a jamais eu de titre. Mais voilà, maintenant. Voilà. Ok, c'est parti. On va en musique avant de passer à autre chose. Voilà. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Faut pas l'oublier. Il y a pas mal d'événements là-bas. Après la pièce musicale.
Nadrenyone uta oku atretre bubungania na be ankaeri munali ba o mina male onkapiti Kayere unka keso na uma ke manule na ye grani jiji elia worome ne gbeno gi jiji ne gbeno gi o o o valia ba madre Yeah.
Henri Nadré. Voilà, je parlais un peu de l'histoire des Noirs, du mois de l'histoire des Noirs. Du mois de l'histoire des Noirs, c'est le mois de février du 1er au 28, 28 jours cette année. Voilà, donc le rôle des Canadiens Noirs et de leur communauté a été largement ignoré en tant qu'élément de clé de l'histoire du Canada aussi. Et c'est réellement fait mention d'ailleurs de que certains loyalistes venus s'établir dans les Maritimes après la Révolution américaine étaient d'ascendance africaine. Ou encore que des soldats d'ascendance africaine ont fait de nombreux sacrifices en temps de guerre depuis l'époque de la guerre de 1812. Les Noirs ne sont pas arrivés hier ici, attention. Donc peu de gens aussi au Canada savent que les Africains ont jadis été réduits en esclavage sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Canada. Ni comment ceux qui ont lutté contre l'esclavage ont contribué à jeter les bases d'une société canadienne diversifiée et inclusive. Voilà, c'est le mois de l'histoire des Noirs et l'occasion d'en apprendre là-dessus. Ça, c'est très important. La reconnaissance du mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord remonte à 1926. Ça ne date pas d'hier. Hein. Voilà. Donc, lorsque Carter Woodson, un historien afro-américain formé à Howard, a proposé de consacrer une période durant laquelle on reconnaîtrait les réalisations des Afro-Américains. Oui, c'est bien ça. Et sensibiliserait les Américains à l'histoire des Noirs. Donc, cette proposition a conduit à la création de la Negro History Week en 1926. Ah, ça fait un bail, ça fait un moment quand même, ouais, ça fait pas deux jours. Hein. Donc les célébrations de l'histoire des Noirs ont commencé au Canada peu de temps après, au début des années 70. 70, hein, 1926 aux États-Unis, au Canada en 70. Donc la semaine s'est faite connaître sous le nom de Black History Week et puis ensuite devenue le mois de l'histoire des Noirs, 1976. Voilà. Donc, et puis en 95, la Chambre des communes a officiellement reconnu février comme le mois de l'histoire des Noirs au Canada, à la suite d'une motion présentée par l'honorable Jean Augustine, première femme Augustine, on peut dire, Jean Augustine, première femme afro-canadienne élue au Parlement. Voilà. La Chambre des communes a adopté cette notion à l'unanimité. Voilà. C'est un peu brosser un peu l'histoire, quoi. Allez-y sur le site là-bas, mois de l'histoire des Noirs. Il y a la programmation, tout ce qui se passe actuellement. Je vais en parler comme ça de temps en temps quand ma programmation à l'émission me permet de faire un petit clin d'œil. Après demain, le 18, on va recevoir le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, Michael Farras, qui va nous parler. On a reçu déjà la semaine passée la porte-parole francophone, Cha Franck, qui est venu nous parler un peu de cette 31e édition. Alors, on termine en beauté avec Roger Rabin, Apologize. C'est le premier parti de l'émission.
Tell
Roger Rabin, Apologize. Oui, restez à l'écoute après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale. Je reçois le docteur Bernard Quentin qui vient nous parler du mois de février, qui est le mois du cœur, de la santé cardiovasculaire et de prévention. Très important. Voilà, il est cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Allez, à tout de suite. N'allez pas loin. Voilà, vous allez apprendre.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
In my ripped up jeans to match my heart in this tragedy, holding on to any part of me that was once convicted. Maybe I'll meet another and feel some sparks, forget about you when we're in. Made for your heart. Now I've got nothing. Come on, baby, why'd you have to break my heart? So much time we've gotten so far. Now where am I supposed to start with this? Hey. I still feel you in every single touch. It's not fair that you got the best, and when he saves me, he'll just get the rest. How'd I get caught up in this? Now I've got nothing. Oh, come on, baby, why'd you have to break my heart? So much time we've gotten so far. Now where am I supposed to start with this? Hey, hand me down, love, when I still feel you in every single touch. Secondhand, nearly new. Just hand me down when you're through. It's okay, you didn't mean to. Secondhand, nearly new. Just hand me down when you're through. It's okay, you didn't mean to. Oh, oh, secondhand, nearly new. Just jaded and gently used. You can barely tell what I've been through. Oh, oh, secondhand, nearly new. Just hand me down when you're through. It's okay, you didn't mean to. So much time dreaming of you and me. Now in his eyes, that's all I can see. You only know what is left of me and this. Hey, hand me down, love, 'cause I still feel you in every single touch.
No, oui, c'était qui ça, Lindsay? Anthem and Me Down Love. Notre invité déjà au bout du fil, c'est le docteur Bernard Quentin, qui est cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, vice-président de l'Association des cardiologues du Québec et porte-parole de la Fondation Cœur et AVC. Oui, je le reçois dans le cadre du mois, dans le cadre du mois du cœur, qui est de la santé cardiovasculaire et de prévention. C'est le mois de février. C'est la raison pour laquelle, bon, avec malgré son emploi du temps, il a eu du temps de venir nous parler de ça. Combien de gens qui sont affectés, l'insuffisance cardio-cardiaque, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que, voilà, les différents problèmes que le cœur peut avoir, ou bien qu'est-ce que c'est qu'un AVC? Alors, il est mieux placé pour nous parler. Bonjour, docteur Bernard Quentin.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très, très bien, et vous?
Merci bien, merci. Je suis très heureux de vous avoir pour nous parler de ce mois du mois du cœur, ce mois de février qui est de la santé cardiovasculaire et de prévention. Et puis, vous êtes le porte-parole de la Fondation, donc il n'y a pas personne d'autre qui est mieux placé que vous. Pouvez-vous nous parler de ça? Mais c'est quoi? Expliquez-nous en gros. Ce mois du cœur de la santé cardiovasculaire et de prévention, et la fondation, le rôle de cette fondation-là.
Oui, en fait...
Avant qu'on ne revienne sur votre... sur vous en tant que cardiologue à l'Institut universitaire, vos recherches, tout ça.
Oui. En fait, la fondation des maladies du cœur, c'est une fondation qui existe depuis quand même plusieurs années.
Oui.
Et qui a comme but de supporter la recherche, supporter aussi beaucoup d'activités.
Oui.
En cardiologie. Puis bon, le mois de février a toujours été le mois du cœur parce que naturellement, en plein milieu, il y a la Saint-Valentin. Donc, c'est un petit peu là, imagé. Puis c'est
okay.
comme ça qu'on s'est ramassé avec le mois de février, là, comme le mois de la santé cardiaque. Puis oui. On voit ça mondialement là, maintenant.
Oui. Et vous, en tant que cardiologue, d'abord, quand ils vous ont approché, pour être porte-parole de l'édition de cette année, comment vous avez dit, bon, ouais, je suis cardiologue à l'Institut universitaire, je suis vice-président de l'Association des cardiologues du Québec, bon, est-ce que j'ai le droit de refuser?
Ben, c'est un peu comme ça. Avez-vous des disponibilités, puis êtes-vous prêt à faire des entrevues le cas échéant?
C'est ça.
Naturellement, c'est sûr que ça me fait plaisir, ça fait quand même... plusieurs années que je travaille dans le domaine de la cardiologie, puis bon, la fondation voulait surtout un focus sur la section d'insuffisance cardiaque, puis bon, c'est sûr que moi j'ai une formation spécifique pour l'insuffisance cardiaque, puis je m'occupe de ce type de patient depuis maintenant près de 25 ans, donc c'est sûr qu'il fallait dire oui.
Oui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe qui est derrière dans cette fondation qui fait un très beau travail d'ailleurs. Bon, l'insuffisance cardiaque au Canada, ce problème de santé complexe et incurable en croissance. Expliquez-nous, est-ce qu'on doit avoir peur quand vous allez nous donner les chiffres qui sont actuellement en statistique là? Ou bien on vous écoute et on dit, bon, ben ça va, il y a des solutions qui sont là.
Ben en fait, c'est sûr que les chiffres font peur, là, mais faut pas trop se décourager, faut aller un petit peu au-delà des chiffres.
C'est ça.
Alors, on parle de 750 000 personnes au Canada qui vivent avec l'insuffisance cardiaque. Donc, on parle quand même de trois quarts de million de Canadiens
oui.
qui ont de l'insuffisance cardiaque. Et puis, là, on parle d'un diagnostic de 100 000 nouveaux cas par année. Donc, c'est certain que lorsqu'on regarde dans les hôpitaux, l'insuffisance cardiaque, c'est un problème qui est omniprésent.
Oui.
Les patients seront hospitalisés pour différentes raisons, mais plusieurs d'entre eux vont faire aussi de l'insuffisance cardiaque, ce qui peut un peu compliquer la façon dont on va faire un traitement. Donc, il faut
oui.
faire attention au liquide, il faut faire attention aux interactions avec différents médicaments.
OK.
Il y en a une partie de l'insuffisance cardiaque qui, comme vous dites, elle est incurable, mais on est capable quand même d'avoir des médicaments qui vont aider à passer une vie quand même fort acceptable. Donc, on est capable de pallier à cette maladie-là sans nécessairement sans la guérir.
Oh oui.
Il y en a quand même une proportion qui peut être guérie, que ce soit par la chirurgie cardiaque, l'utilisation de certains médicaments, ou est-ce que le cœur va de façon transitoire avoir une diminution de sa fonction, donc l'insuffisance cardiaque, et puis une fois que l'intervention ou les médicaments auront fait leur travail,
oui.
le cœur peut recouvrer une fonction qui est normale. Donc, dans la chirurgie cardiaque, on peut quand même guérir une certaine proportion des insuffisants cardiaques.
Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous banaliser un peu, en expliquant un peu, qu'est-ce que c'est qu'une insuffisance cardiaque?
Ben, en fait, on va parler d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur, peu importe pour quelle raison que ce soit, n'est pas capable de fournir assez de sang pour que l'organisme puisse fonctionner à plein régime.
Oui.
Donc, supposons que la cause la plus fréquente demeure quand même l'infarctus, puis que c'est une cause qui n'est pas toujours facile à corriger. Alors, une fois qu'il y a eu un infarctus, il y a une partie du cœur qui décède, si on veut, ou qu'il y a une mortalité d'une partie de la fonction du cœur.
Oui.
Donc, il perd une partie de sa capacité à bien pomper. Et puis, à ce moment-là, lorsque vous voulez consentir un effort, monter des escaliers, par exemple, ou faire un peu plus de sport, ben, le cœur n'est pas capable de fournir assez de sang pour que l'organisme puisse vaquer à ces activités-là. Donc, on parle à ce moment-là d'insuffisance cardiaque.
Oh oui, oui.
Ça, c'est je vous dirais que c'est la cause la plus fréquente. Il y a toutes sortes d'autres causes, des problèmes de valve, des problèmes de cœur qui n'acceptent pas bien le sang, mais peu importe, dans chaque cas, c'est l'incapacité du cœur à fournir assez de sang pour que vous meniez une vie normale.
Oui, oui, oui. Oui. Et quand je vois que... Oui. Merci bien. Quand je vois le cœur bat en moyenne 100 000 fois par jour.
Écoutez, vous me prenez de court, là.
C'est sur votre site que je suis allé. Oui, probablement 100 000 fois. Je suis allé me promener sur votre site, là. J'ai dit, mais il faut que je me documente au maximum avant de le recevoir. Sinon, il va dire...
Voilà.
Oui. Peu importe le nombre de battements.
Lorsque je regarde les analyses pour une journée, en effet, on se trouve autour de 100 000 pour le nombre de battements, là. 120 000, oui.
Donc, c'est ce petit muscle qui est la forme d'un point, d'ailleurs, qui nous permet d'être en vie, au fait. C'est lui qui permet la circulation du sang.
En fait, il permet la circulation du sang, permet de générer une tension artérielle assez élevée pour que le cerveau, les reins puissent bien fonctionner. Donc, oui, c'est sûr. En tant que cardiologue, on va toujours vous dire que c'est l'organe le plus important. Les neurologues vont vous dire que c'est le cerveau, les pneumologues que c'est les poumons, mais on sait que nous, les cardiologues, on a raison. Alors, c'est vraiment l'organe le plus important.
Ouais, ouais. Mais pourquoi docteur Bernard, quand vous êtes allé en médecine là, tout jeune là, pourquoi est-ce que vous avez choisi ça, ce côté cardiologie là? Qu'est-ce qui vous a attiré là dans le cœur?
Mon voisin.
Oui.
Mon voisin était cardiologue. Je trouvais ça très très intéressant ce qu'il faisait. Il m'amenait à l'hôpital des fois la fin de semaine lorsqu'il allait voir des patients qui étaient enrôlés dans son projet de recherche.
Oui.
Et puis nous autres on allait là, moi puis son fils qui était mon bon ami.
Oui.
Et puis écoutez, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas plus sorcier que ça là. C'est un bel exemple. Alors, moi, j'ai fini cardiologue et son fils a fini chirurgien cardiaque.
Ah, bon, d'accord.
C'est vraiment juste ça. C'est voyant ce qu'il faisait.
Oui.
Voyant que ça avait l'air très intéressant, je me suis dit, waouh, quand je vais être grand, c'est ça que je veux faire.
Waouh! Et puis, vous l'avez réalisé.
Mais oui.
On fait une petite pause musicale et puis je vous reviens.
Parfait.
Merci, Dr. Beta.
Jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours. Je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours, quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffe un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoile sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout est éclaté.
Martin Théberge, tous les cris, tous les SOS. Oui, le docteur Bernard Quentin est toujours avec nous pour parler du mois de février, qui est le mois du cœur d'ailleurs, et de la santé cardiovasculaire et de prévention. Voilà. Voilà. Docteur Bernard.
Oui.
Il dit oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'insuffisance cardiaque est une épidémie?
Oui, définitivement. Lorsque, un petit peu, je faisais référence dans les hôpitaux.
Oui.
Lorsqu'on signe un départ d'un patient à l'hôpital, on va énoncer le diagnostic qui a causé l'hospitalisation, mais aussi les autres diagnostics qui sont les comorbidités qui ont pu compliquer le temps.
Oui.
Puis le diagnostic le plus fréquent qu'on trouve sur les résumés d'hospitalisation à l'hôpital, c'est l'insuffisance cardiaque.
Oui.
Donc oui, c'est un état définitivement épidémique.
Wow. Quand vous avez affaire, vous, en tant que cardiologue, quand vous avez affaire à vos patients, est-ce que ça vous arrive? C'est difficile pour vous de dire à la personne, non, vous allez suivre, non, vous n'allez pas suivre, comment c'est?
Ouais, en fait, lorsqu'on approche un patient, on a toujours l'attitude que le patient va survivre. Hein. Faut comprendre. Là. C'est sûr qu'on a tous une durée de vie limitée, bon, mais oui, notre attitude est toujours ça. Donc, il y a des circonstances qui vont faire qu'on va savoir que c'est plus difficile, puis que les chances de s'en sortir sont moins bonnes.
Oui.
Mais en général, même avec l'insuffisance cardiaque, il faut quand même réaliser que les chances de survie sont bonnes. Hein? On parle de dépendamment de votre capacité d'effort, la mortalité de l'insuffisance cardiaque,
oui,
sur un an peut aller de 5 à 20 %, donc 5 % chez les gens qui sont très, très peu affectés.
Oui.
Au point de vue fonctionnel, et puis ceux qui sont beaucoup plus affectés ont la difficulté même à marcher, mais on va parler à ce moment-là d'une mortalité qui va plus s'approcher des 20 %. Mais peu importe le patient, notre attitude est toujours de dire qu'on va passer à travers. On a le bénéfice actuellement d'avoir tellement...
Vous restez positif, oui.
Oui, mais on a tellement d'outils thérapeutiques avec nous qui sont disponibles. Mmh. Les insuffisants cardiaques ont souvent des défibrillateurs implantables, donc au lieu de recourir aux ambulanciers s'il y a un arrêt cardiaque, ils sont porteurs d'un appareil qui va tout simplement donner un choc immédiatement si le cœur arrête. Le choc est donné en dedans de 10 secondes, donc c'est ce qu'il y a de mieux là, pour améliorer la survie.
Oui.
On a certains cardiostimulateurs qui permettent d'améliorer la contraction du cœur, d'améliorer la façon dont le cœur va pomper, donc nous aider au point de vue de la fonction des patients, ça améliore aussi la survie. Je faisais référence tantôt aux chirurgies cardiaques un peu plus complexes. Dans les cas plus avancés, on a aussi des cœurs mécaniques, donc des appareils purement mécaniques,
oui,
qui sont implantés et qui permettent de pallier au manque de ressources, au manque de capacité
de fonctionnement, oui.
C'est ça.
Oui.
Puis pour quelques patients, il y a toujours la greffe cardiaque aussi qui demeure une possibilité. Donc, il faut toujours les aborder avec une attitude extrêmement positive parce que même si la situation peut paraître extrêmement dramatique, extrêmement difficile, ben, il y a souvent une voie de passage.
OK. Merci à vous. Pour continuer, bon, durant le mois du cœur, qu'est-ce que la Fondation fait? C'est une manière de sensibiliser. C'est un mois de sensibilisation ou bien comment ça se passe là? Voilà,
c'est exactement ça. C'est un mois de sensibilisation, un mois pour permettre aux gens de se rappeler que les maladies cardiaques sont toujours présentes autour de nous. Et puis que, dans le fond, la Fondation, les chercheurs, toutes les équipes médicales sont là pour aider la population. Puis il ne faut tout simplement pas l'oublier. Alors, dans ces mois de sensibilisation-là, on en profite toujours pour rappeler un peu quels sont les symptômes, quelles sont les avancées. Donc, la Fondation des maladies du cœur, comme je disais plus tôt, existe depuis quand même plusieurs années. Il y a deux volets. Il y a les problèmes cardiaques comme tels, puis il y a les problèmes d'AVC, donc les événements cérébraux. Donc, c'est ça. Donc, cette année, le focus est plus là, sur l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un petit peu... l'année prochaine, ce sera d'autres choses.
Oui. Mais quels sont les symptômes?
L'insuffisance cardiaque, c'est surtout de l'essoufflement. Les patients n'ont pas la capacité de consentir l'effort qu'ils aimeraient donner. Ça, c'est le symptôme qui est le symptôme majeur. On va arriver quelquefois que les patients aussi ne sont pas capables de se coucher à plat parce que le cœur n'a pas la capacité de gérer tout le sang qui revient, donc ils ont tendance à se coucher de façon assise. Mais ça, c'est des insuffisances cardiaques qui sont assez avancées et qui ressentent donc peut-être un peu plus complexes. Mais pour la majorité des gens, c'est surtout un essoufflement lorsqu'ils veulent faire un effort.
Un effort physique, en montant les escaliers ou bien en marchant, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on est à un essoufflement, il faut tout de suite dire « Oh, c'est la lumière rouge qui s'allume, je vais voir le médecin ». Non, c'est pas ça, forcément ça.
Ben, des fois, on a des essoufflements, puis bon... on peut se regarder dans le miroir, puis on se dit « Ouais, probablement que je traîne une partie de mon essoufflement. » Mais c'est sûr qu'il y a des surpoids qui peuvent causer de l'essoufflement. Il y a de l'asthme qui peut causer un essoufflement.
Oui.
Il y a l'insuffisance cardiaque. Il y a quand même quelques raisons. Des fois, il y a des phénomènes pulmonaires, des poumons qui ont été ravagés par la cigarette. On va se trouver avec des essoufflements, mais l'insuffisance cardiaque demeure quand même une cause importante des essoufflements.
Oui.
Et puis, lorsqu'il y a un essoufflement, certainement parler à son médecin de famille, qui peut faire une évaluation, une première évaluation, et souvent diriger adéquatement le patient vers la cause de l'essoufflement et comment est-ce qu'on peut essayer d'y pallier.
Et surtout l'inconfort au niveau du thorax aussi, hein?
L'inconfort au niveau du thorax, on commence à parler à ce moment-là plus de l'angine, plus de l'infarctus. L'angine et l'infarctus ne sont pas les conditions comme telles qu'on qualifie d'insuffisance cardiaque.
Oui.
L'infarctus peut vous mener vers l'insuffisance cardiaque, en ce sens que si vous faites un infarctus, c'est le dommage au niveau du cœur est très important, mais le cœur fera à ce moment-là de l'insuffisance cardiaque, puis ben, là, on verra comment est-ce qu'on peut essayer de vous aider à continuer.
Mm-hmm.
Mais l'inconfort dans le thorax, les malaises lors des efforts, en effet, c'est aussi un signe extrêmement sérieux qui doit être pris, qui peut pas être pris à la légère et qui doit être investigué lorsqu'il arrive. Mais c'est pas exactement l'insuffisance cardiaque, mais c'est une condition qui peut définitivement rendre l'insuffisance cardiaque.
Ouais.
Alors, si on peut intervenir en amont, prévenir l'infarctus, ben on va diminuer par la suite l'insuffisance cardiaque.
Okay.
Parce que je vous rappelle que l'infarctus est la cause la plus importante de l'insuffisance cardiaque.
Okay. Alors, pour les dernières 30 secondes qui nous restent, quel est le message que vous lancez aux auditeurs qui nous écoutent pour le mois de février, qui est le mois du cœur, et quelles sont les précautions à prendre? Comment il faut surveiller son cœur, ou bien comment il faut être à l'écoute de son cœur, de son corps, de son cœur?
Ben, je pense que vous avez bien évoqué que lorsque quelqu'un commence à ressentir un inconfort dans le thorax, lorsqu'il fait un effort, ça mérite une investigation, parce qu'on ne veut pas se rendre jusqu'à l'étape de l'insuffisance cardiaque.
Okay.
Les gens qui ont peut-être l'insuffisance cardiaque, Lorsqu'il y a un essoufflement qui apparaît, qui est comme nouveau, qui est plus problématique, ça vaut vraiment la peine d'en parler à son médecin. Parce que le tout doit être investigué, parce que oui, la condition est chronique, oui, la condition a une portion qui est irréversible,
oui.
Mais il y a quand même beaucoup de situations qui mènent à l'insuffisance cardiaque pour lesquelles on peut pallier,
oui.
Faire des chirurgies, faire des ajustements de médicaments, et puis on pourra éviter de se retrouver avec une insuffisance cardiaque extrêmement avancée, extrêmement débilitante.
Merci beaucoup, Dr. Bernard Quentin. Cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, vice-président de l'Association des cardiologues du Québec et porte-parole de la Fondation Cœur et AVC pour le mois février, qui est le mois du cœur et de la santé cardiovasculaire et de prévention. Merci à vous. Bon travail. Et puis, voilà, et pour vos recherches avec votre équipe, et j'espère que vous allez permettre de réduire le nombre de malades du cœur.
Oui, on espère que la recherche nous permet de réduire et de les améliorer, mais l'important, c'est qu'on les améliore un à la fois lorsqu'on les rencontre.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Bonne fin de soirée.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Ton destin entre les mains, prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi, n'abandonne jamais quoi qu'il en soit. Et n'attends personne pour bâtir. En toi pour le faire, traverser les orages et les déserts, aventure-toi sur le plus beau chemin, le monde est immense, il t'appartient, si l'espoir est grand.
Merci beaucoup à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Et on dit merci au docteur Bernard Quentin, porte-parole de la Fondation Cœur et AVC, bon, dans le cadre du mois du cœur, le mois de février, de la santé cardiovasculaire et de prévention. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de votre fidélité. On se retrouve demain, voilà, sur les ondes de Canal M, voilà, dans le même studio ici, avec la même voix, avec le même technicien. Et sur ce, je vous dis ciao.